MIPIM 2025 en partenariat avec Envie de Ville by Nexity sur Radio Immo.
Bonjour, il est 10h37, vous êtes sur Radio Immo, merci d'être avec nous. Deuxième journée du MIPIM édition 2025. Ici se rencontrent les acteurs de la fabrique de la ville, ceux qui pensent aussi la ville de demain, mais aussi aujourd'hui, avec les difficultés, parfois, les obstacles, les injonctions contradictoires, les aspects politiques, territoriaux, des sujets qui nous passionnent. Une table ronde que je vous propose en partenariat avec nos amis d'Envie de Ville et le groupe Nexity sur les maires. Vous savez qu'on aime beaucoup les maires, les élus locaux, on est connu pour ça dans notre groupe média. Les maires sont les premiers aménageurs de France, mais plus largement, sont aussi les bâtisseurs au sens noble du terme. J'ai pas dit maire bétonneur, j'ai dit maire bâtisseur, bâtir pour autrui, bâtir pour ses administrés et pour l'intérêt général. C'est la thématique du jour. Je suis accompagné de notre éditorialiste favori, c'est Jean-Luc Porcello, patron de Nexity Transformation et Territoire.
Bonjour Sylvain, merci. Comment ça va? Bien. Ça va bien.
Merci d'ailleurs, et également directeur de la publication d'Envie de Ville. Merci d'être avec nous, Jean-Luc, avec des sujets toujours extrêmement prégnants. Je suis très heureux de recevoir aussi également Pascal Thévenot. Bonjour Pascal Thévenot, vous êtes le maire de Vélizy-Villacoublay. Merci d'être avec nous et de partager votre expérience de maire. Merci également à Quentin Gézel d'être avec nous.
Bonjour.
Je le dis bien, Gézel ?
C'est parfait.
Voilà, merci d'être avec nous. Vous êtes le maire de Duny. Merci d'être avec nous. Voilà, un grand monsieur et du territoire qui est un grand monsieur que je connais bien, puisque forcément, il est lyonnais, donc, et je suis lyonnais. Donc, on ne dira pas que je suis chauvin. Il est avec nous, c'est Renaud Père. Bonjour, Renaud.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes vice-président de la métropole de Lyon. Vous êtes en charge de l'habitat, de la politique de la ville et du logement social. Ça, pour le coup, c'est une mission extraordinaire, extrêmement intéressante. Merci d'avoir accepté l'invitation sur le plateau de Radio Immo avec nos amis de Nexity et d'Envie de Ville. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Vous êtes en première ligne, on peut le dire, alors c'est presque la palissade de le dire, sur la thématique, justement, de l'aménagement du territoire. Et il y a récemment, un congrès des maires de France et des présidents de communalité, une des crises du logement multifactorielle s'est installée dans toutes les villes de France et les maires doivent y faire face, comme si finalement, on a l'impression que les maires sont toujours, systématiquement, quoi qu'il arrive dans nos territoires, toujours en première ligne, comme, je ne sais pas qui l'a dit, mais comme les fantassins, finalement, de la République. L'introduction, justement, d'un édito pour poser notre décor. Je vous propose, messieurs, que ce soit notre ami Jean-Luc Porcello qui s'y colle.
Merci, Sylvain. en première ligne, oui. En première ligne, quels que soient les sujets. On l'a vécu, vous l'avez vécu au moment de la crise de la Covid. C'est vers les maires que la société française s'est retournée et c'est avec les maires et les élus locaux que les solutions les plus efficaces ont été trouvées. En première ligne, oui, bien sûr, sur tous les sujets d'aménagement, d'urbanisme, de développement du territoire, parce que vous êtes les locomotives de ces sujets. Et je dirais, nous partageons avec vous, moi, on va dire le premier aménageur privé, trois choses qui font que ce sont les maires qui sont au cœur de ces sujets. Ce sont les maires qui permettent d'évoluer bien plus parfois que les services déconcentrés ou les services de l'État. Pour trois raisons. D'abord, le rapport au temps. C'est un élément essentiel, bien sûr, pour les élus locaux. C'est un temps que l'on connaît, que vous connaissez mieux que nous. C'est-à-dire, c'est un temps de 6 ans, pour faire simple. Et on sait que la transformation de nos territoires... Monsieur le maire de Duny le sait peut-être encore plus, que la Seine-Saint-Denis est un territoire de grande transformation, parce que héritage industriel, parce que arrivée d'investissements publics et privés très lourds, et je dis et privés bah, avec les Jeux Olympiques par exemple, parce que les entreprises privées ont beaucoup investi, pas toujours avec des résultats positifs, mais bon, c'était pour la, on va dire, l'honneur de la France et l'image de la France. Donc un rapport au temps, c'est vous les maîtres des horloges, un rapport à la qualité, qui est aujourd'hui déterminant dans les projets que nous pouvons porter, mais déterminant dans les exigences des élus locaux. Qualité, bien sûr, de l'habitat, c'est des évolutions, on va dire, très fortes dans ces dernières années. Qualité environnementale, ce sont des sujets que nous partageons avec vous. Et qualité, j'insiste beaucoup sur ça en tant qu'aménageur, qualité de l'espace public. qui sont des sujets qu'on regardait moins il y a quelques années et qui aujourd'hui, alors pas pour les aménageurs, mais qui aujourd'hui sont, on va dire pour moi, centraux dans l'aménagement des territoires, des collectivités territoriales, parce que l'espace public va décliner la qualité de l'habitat, va décliner des sujets de sécurité, va décliner des sujets de mobilité, qualité environnementale, parce que je crois qu'aujourd'hui, aussi bien les entreprises privées, les aménageurs privés et publics, et les élus sont très exigeants, à juste titre, sur les ambitions environnementales. Nexity, on est le premier promoteur français de construction bois. Ça fait 6 années consécutives qu'on est labellisé BBCA. On a eu des expériences sur les Girou, mais aussi ailleurs, je pense à Lyon, sur l'agglomération de Lyon, en portant des innovations. On est en train de livrer un bâtiment qu'on appelle 22-26, c'est-à-dire minimum 22 degrés, maximum 26 degrés, sans chauffage. Voilà, on est dans ces partenariats avec les collectivités sur les enjeux environnementaux. Et je crois aussi les maîtres du temps, et c'est valable pour nous, entreprises privées, aménageurs privés, comme pour vous, bien évidemment, collectivités, c'est garant des équilibres économiques. La vraie difficulté aussi, parmi tant d'autres, aujourd'hui, c'est l'équilibre économique des collectivités territoriales, des collectivités locales, avec des dotations qui sont un peu en diminution, sans être polémique, avec l'incapacité de lever l'impôt et donc de porter des projets. Et souvent, le partenariat entre l'aménageur privé et la collectivité, c'est aussi trouver des moyens de répondre à des questions économiques. Je prends toujours le même exemple. Quand on travaille sur la qualité de l'espace public, sur les enjeux environnementaux, vers plus de végétalisation, ça veut dire des coûts d'entretien. Parce que renaturer, il faut entretenir. Et dans des procédures d'aménagement, on a ce qu'on appelle des participations qui, un début de réponse, ça ne comble pas tout, mais un début de réponse par rapport aux collectivités ou au sujet d'investissement en particulier ou de fonctionnement, si je parle de la renaturation. Donc le rapport au temps, le rapport à la qualité, le rapport aux équilibres économiques, voilà trois, on va dire, leviers d'un partenariat que nous développons beaucoup sur l'ensemble du territoire national entre une entreprise privée, aménageur et des collectivités.
Merci, ça va très bien introduire le débat. Je vais vous demander de réagir justement chacun sur ce commentaire. Je vais commencer par vous, Renaud.
Non, mais je souscris évidemment à tous les propos de Jean-Luc, mais il y a un aspect que j'ajouterais. C'est que côté commune comme côté métropole, puisque je parle au nom d'une métropole qui est élue au suffrage universel direct, nous sommes plus que cela encore. Nous sommes dans un moment où il y a une perte de confiance, une instabilité de l'État, les garants. Non seulement sur 6 ans.
J'ai un devoir de réserve en tant qu'entreprise.
Non, mais je le dis très clairement. Et je le sais que les promoteurs, les architectes, l'ensemble des acteurs qui font le logement aujourd'hui se disent heureusement qu'il y a les territoires.
Mais bien sûr.
Heureusement qu'il y a les collectivités territoriales. Pourquoi ? Parce que nous mettons les personnes bien autour sûr. De la table. Alors, je suis tout à fait aussi d'accord avec vos propos. Il y a deux problèmes aujourd'hui. D'abord parce que ça fait des gouvernements successifs et j'ai beaucoup d'espoir quand même dans l'inflexion marquée par Valérie Létard, mais où on pense que le logement est un coût alors que c'est un investissement. Mais il y a un deuxième problème, c'est que les collectivités territoriales ont été coupées de leurs moyens. Et je ne parle pas que de la loi de finances 2025. Quand on supprime la taxe d'habitation et qu'on ne la remplace pas par une vraie réflexion sur ce que doit être la fiscalité locale, on s'empêche de poser la question de la valeur du foncier, la question de la rétention des fonciers, la question finalement de tous les leviers qui nous empêcheront finalement d'agir dans quelques années. C'est encore une fois une irresponsabilité, me semble-t-il. Je suis désolé d'amener un peu de politique là-dedans, mais c'est plus de l'agacement que de la politique politicienne.
Merci. Je suis très heureux de l'entendre dire. Très heureux de l'entendre dire. Merci. Pétri de bon sens et de réalité. Pascal Thévenot.
Moi, je réagirais juste sur le bon sens, en fait. Aujourd'hui, tout repose sur le maire, parce que c'est aussi les collectivités, alors le maire ou la métropole, suivant les situations, mais même dans la métropole, souvent, sont quand même des maires, qui ont une vision pour leur territoire, qui ont besoin de renforcer l'attractivité et de répondre au cadre de vie de nos concitoyens. Et le cadre de vie, ça veut dire que le but, c'est de pas de faire des logements standards qui répondent à des normes et qui, du coup, sont construits, mais de faire des logements pour améliorer le cadre de vie. Moi, je ne veux pas faire du mètre carré, je veux faire des logements à vivre. Et pour ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, le supprimer la taxe d'habitation, il est clair que si on n'avait pas supprimé les députés-maires, on n'aurait jamais supprimé la taxe d'habitation parce qu'ils savaient de quoi ils parlaient. Et à une époque, j'ai été député maire. Il est clair que j'aurais été incapable d'assumer ce vote en revenant
mais bien sûr.
Dans ma collectivité. Et aujourd'hui, maintenant, le logement, c'est devenu une charge. Parce que quand vous construisez du logement social ou du logement privé, hein, peu importe, vous devez avoir amené du service pour accompagner cette qualité de vie. Et le fait d'avoir supprimé la taxe d'habitation et les dotations, alors moi je suis un peu particulier, hein, j'ai la chance d'avoir une grosse activité économique qui permet de faire mon budget, mais j'ai pas de dotation, donc finalement c'est pas plus mal quand ils baissent la DGF, ça me concerne plus. Mais quand même, il faut créer de la valeur. Et aujourd'hui, on considère qu'une ville, elle ne peut pas créer de la valeur, et la valeur c'est pas simplement financier. La valeur du bien-être, du bien-vivre, ça fait aussi des économies, parce que quand on construit une ville, comme vous le dites, l'environnement public, les espaces publics, et après je construis autour. Mais à partir du moment où vous avez des gens qui se sentent bien, et bien vous avez pas mal, toute une économie d'échelle des dépenses sociales qui ne se font pas.
Absolument.
Et du coup, le logement et la ville, c'est avant tout une création de valeur, mais de valeur de bien-être, et du coup du bien-être aussi pour nos dépenses publiques.
J'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup, je pense que ça augure bien la vérité du débat. On a pris le parti avec Jean-Luc, que tout le monde puisse s'exprimer librement. Bien évidemment, il y a aussi des réserves, effectivement, que Jean-Luc prend sur certains sujets.
Et mais nous, on en a moins.
Mais nous parlons vrai. Nous parlons vrai, parce que c'est important de vous donner également la parole. Quentin Jezem.
Oui, alors je souscris aussi totalement à ce qui vient d'être dit, et notamment par ce qui vient d'être dit par Pascal, parce que... quand on est maire, quand on est porteur de projets sur un territoire, on veut effectivement la meilleure qualité de vie pour nos habitants. Je vais redire ce qui vient d'être dit, mais effectivement, on n'est pas là pour faire du mètre carré. Et des fois, c'est des débats qu'on peut avoir aussi autour d'une table de réunion avec un promoteur, avec des architectes, avec des porteurs de projets, où on va peut-être être là en train de se dire, bon, finalement, si on peut supprimer un étage, c'est peut-être mieux pour l'ensemble du quartier qui est en construction. Si on peut avoir un peu plus d'espace vert en pied d'immeuble, c'est bien aussi. Et ça a été, moi, un sujet sur lequel j'ai eu beaucoup d'échanges récemment, puisqu'on a eu un très gros projet sur Duny, qui est celui du village des médias pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, où on a construit 950 logements à livrer avant les Jeux, et on en a encore 600 en phase d'héritage à construire, qui vont débuter dans quelques mois. Et à chaque fois, ça a été un point important que j'ai souhaité porter, et qu'on a continué de porter à chaque réunion, pour la simple et bonne raison que je suis maire d'une ville qui a une identité très verte. Et c'est vrai que quand on dit Seine-Saint-Denis, on n'imagine pas toujours ça. Et quand on est la deuxième ville la plus verte du 93, on veut conserver cette identité-là, parce que c'est un cadre de vie qui plaît aux gens, et qui fait qu'on a aussi une forme d'attractivité pour le territoire. Parce que quand on est à bientôt 20 minutes de la Défense grâce au Grand Paris Express, on ne s'imagine pas forcément avoir une ville qui donne sur un parc de 400 hectares qui offre un cadre de vie incroyable à ses habitants, et qui fait aussi que des fois on a ce problématique par rapport à la crise du logement, où quelques familles qui vont être en suroccupation d'un logement préfèrent rester en suroccupation d'un logement plutôt que d'avoir un plus grand logement dans
une ville. C'est vrai que quand on est chez vous, moi je connais très bien votre ville, on a l'impression d'un voyage presque dans le temps, et on se dit on est à une encablure de Paris. Et on est vraiment en pleine campagne. Vous pouvez témoigner du fait que vos administrés ont une qualité de vie que vous avez su préserver, et c'est cette identité-là que vous souhaitez maintenir.
Je souhaite absolument la maintenir, sauf qu'on nous impose aussi parfois des obligations
construction
et des contraintes où là, le bras de fer débute assez régulièrement.
Oui, mais en même temps, votre ville attire. Elle a une croissance positive en termes de démographie. Il faut bien loger les gens aussi. À un moment donné. C'est aussi parfois une injonction un peu particulière. Alors justement, c'est bien le sujet. Je voudrais qu'on prenne un sujet avec vous, Renaud, qui vous pilotez une région extrêmement importante, qui est une région majeure dans notre pays. C'est sur justement la problématique du foncier. Vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, problématique de rétention du foncier, de fiscalité du foncier. Il faudra peut-être un jour qu'on s'y penche. Comment, lorsqu'on est au pilotage de l'habitat, de la politique de la ville, du logement social, on répond justement à cette demande. On voit d'ailleurs que la démographie explose à Lyon, parce que la ville attire, la région, l'agglo attire, tant mieux. Vous êtes sur un résolument engagé sur cette type de politique, avec également bien sûr le maire de Lyon. Comment vous arrivez à mener toutes ces injonctions, et comment vous, de manière pratico-pratique, vous accompagnez ce mouvement nécessaire, malgré parfois un exécutif qui ne vous aide pas forcément toujours?
Pour être tout à fait clair, on est arrivé en 2020 avec dans notre majorité un objectif de production de logements sociaux et abordables, pour une raison très simple. Quand on est arrivé, il y avait déjà une pression de 10 demandeurs et demandeuses de logement social pour un seul ou une seule qui l'obtenait. Bon, on est toujours dans cette même pression. Et donc, on est arrivé 2020 en se disant, on va produire beaucoup. Il faut bien dire une chose, depuis 2022, tout s'est effondré. On est dans une situation où ma mission en tant que vice-président au logement est devenue une mission de gestion de crise, de tout explorer. Depuis 2022, il n'y a pas une semaine où avec mes équipes, on ne cherche pas à explorer des pistes. La surélévation. Refaire la ville sur elle-même, c'est une maxime. Mais il faut imaginer comment, dans la métropole de Lyon, nous finançons les bailleurs sociaux. Et j'aimerais demain qu'on imagine aussi cela avec les promoteurs, hein, je le dis très clairement, pour faire de la surélévation. C'est très coûteux, mais il faut qu'on arrive à imaginer des choses. On a lancé un plan d'urgence, 10 millions d'euros. Et notamment, on parlait d'une opération à Confluence, on l'a en partie sauvée par un plan d'urgence. Voilà. 10 millions d'euros qui subventionnaient les bailleurs sociaux pour qu'ils puissent se porter acquéreurs de la part qui n'était plus commercialisée. Parce que c'est quand même bien cela que nous avons connu et que nous connaissons encore. Et puis, il y a le foncier. Quand vous êtes dans une métropole aussi tendue que la nôtre, dont le cœur est Lyon et Villeurbanne, et que vous savez que vous n'avez quasiment plus d'opportunités foncières, j'exagère toujours un peu, hein, faut quand même nuancer, bah précisément, il faut se mettre autour de la table. Moi, j'ai demandé à la préfète de réunir l'ensemble des pourvoyeurs de fonciers. C'est évidemment l'État, les armées, c'est la métropole elle-même, mais c'est aussi les universités, mais c'est aussi les hôpitaux, et puis c'est la SNCF.
La SNCF.
Et donc, on s'est mis autour de la table. On est en train de radiographier. On est en train de se dire, là, il y aura du foncier. Mais il faudra que chacun prenne sa part de responsabilité, parce qu'il faut absolument que nous arrivions à avoir une prospective à 5 ans. Je finis juste à un élément. Depuis que nous sommes arrivés en 2020, tous les ans, nous réunissons tous les promoteurs, avec les bailleurs sociaux, avec les architectes, pour leur dire, voilà les grandes opérations qui vont sortir. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas être simplement dans l'entre-soi ou dans la relation de couloir, que ce soit à Cannes ou à Lyon, pour dire, ouais, vous inquiétez pas, il y aura ce foncier qui va sortir. Non, il faut que l'information, elle soit partagée par tout le monde. Et donc, nous faisons cela. C'est une manière de vous rappeler une chose. C'est que tout à l'heure, je vous disais que nous sommes en plus nous sommes la collectivité qui met autour de la table, mais nous sommes probablement l'un des acteurs de l'investissement. Parce que pour nous, contrairement peut-être à d'autres pouvoirs publics, nous pensons que le logement et que l'aménagement, c'est de l'investissement. Et je le traduis en un chiffre, sur notre politique d'investissement, c'est 3,6 milliards, hein, la métropole de Lyon, la politique d'investissement, 2 milliards sont dédiés à la question de l'aménagement, de l'espace public au logement. C'est ça la réalité quand même des chiffres de la métropole de Lyon. C'est 2 milliards qui sont injectés, d'abord pour le bien-être de nos habitants et habitantes, des grands Lyonnais et des grandes Lyonnaises, mais aussi pour les acteurs économiques. Parce que j'ai toujours à l'esprit aussi qu'un logement produit, c'est 2,4 emplois. C'est pour ça qu'on a lancé le plan d'urgence, pour éviter que le logement empêché, ce soit 2,4 emplois menacés. C'est exactement ça notre philosophie. Autrement dit, faisons du logement parce que nous avons besoin de maintenir un tissu économique et une qualité de vie pour nos grands Lyonnais et nos grandes Lyonnaises.
Vous savez que ça a beaucoup d'écho ce que vous dites, parce qu'il n'y a pas 3 jours, le président de la FFB, la Fédération française du bâtiment, Olivier Salleron, avait annoncé les chiffres du mois courant avec la destruction de 35 000 emplois dans la construction. C'est déjà 100 000 emplois dans la construction qui ont été supprimés déjà plus d'un an. Donc c'est extrêmement intéressant d'un point de vue pragmatique de vous entendre, Renaud. Pourquoi ? Parce que vous êtes certainement, je crois, le premier élu que j'ai interviewé qui nous dit qu'effectivement le rapport de la création de 2,5 emplois moyens par bâtiment, par unité construite, par appartement construite, est une réalité économique. Je suis très heureux de vous l'entendre dire, parce qu'on n'entend pas forcément toujours de la part des élus. Et ça, c'est très important. Pour ce qui vous concerne, Pascal Thévenot, Vous avez une chance inouïe, c'est que vous avez désensibilisé votre attrition par rapport aux dotations avec l'activité économique de Vélizy et la Coupée. C'est un avantage considérable. Vous donnez envie finalement à vos collègues maires partout en France. Mais justement, sur la question à la fois de bâtir, parce que vous êtes un territoire, alors là en particulier, quand je vois la démographie, extrêmement attractif. Du coup, parce qu'on a envie, et il fait bon vivre à Vélizy, Villacoublay, bien entendu, comment vous arrivez à adapter cette nécessaire transformation des territoires? Renaud Père vient d'indiquer le fait que la surélévation, la verticalité, finalement, était aussi une nécessité, nonobstant le fait qu'on vous a enjoint également dans le ZAN, le fameux zéro artificialisation nette, des injonctions qui vous empêchent aussi parfois de construire de manière cohérente pour vous administrer. Comment vous adaptez votre politique? Première question. La deuxième, c'est est-ce que vous pensez que nécessairement la densification, la verticalité de la ville deviendra une nécessité?
Alors moi, je suis un peu un ovni quand même dans ce monde-là, puisque j'ai la chance d'avoir une grosse attractivité économique. Alors, j'ai pas de dotation, mais je dois avoir renforcé mon attractivité parce que l'attractivité économique, ça veut dire que c'est des sièges sociaux, des bureaux d'études qui viennent s'installer.
Il faut du logement.
Il faut du logement, et il faut aussi, même s'ils vont pas tous habiter là, il faut que les salariés qui sortent de leur entreprise n'aient pas envie de se sauver. Donc ça veut dire qu'il faut aussi une qualité de vie et tout un écosystème. Et moi, le but de la ville, c'est de faire un écosystème. Après, quand je dis que je suis un ovni, c'est parce que quand vous dites qu'il faut construire pour loger parce qu'on a 10 personnes pour un logement, il faut aussi pouvoir avoir la maîtrise du peuplement. Parce qu'aujourd'hui, le problème que j'ai, moi, par exemple, au niveau du logement social, c'est que j'ai la chance d'avoir une SEM qui gère 3000 logements. C'est du logement intermédiaire, mais qui n'est pas considéré en SRU. Ce qui veut dire que je peux appliquer les critères que je veux et j'arrive du coup à reconstruire la ville sur la ville avec mes propres investissements, en investissant sur le logement, parce que j'accompagne le Vélizien et le salarié vélizien dans son parcours du logement et je peux avoir un critère. Donc ouais, il faut être vélizien ou salarié vélizien pour être prioritaire. Et alors que le logement social, aujourd'hui, ma difficulté, et j'ai encore eu un exemple récemment, et en plus c'était une attribution préfet, donc je lui ai envoyé, où on me proposait des salariés qui travaillaient à 2 heures de la ville, alors que j'ai un bassin d'emploi de 50 000, et si on prend le territoire, c'est beaucoup plus important. Donc je pense que moi j'ai la chance d'avoir...
Vous n'avez pas la main là-dessus.
Cette SEM, on n'a pas la main avec le
fonds,
c'est encore pire. Et ce qui fait qu'on a... Il y a la difficulté de construction, bon, il faut avoir les moyens. Il y a des villes qui les ont, moi je les ai. Mais il faut aussi avoir l'objectif du peuplement pour pouvoir renforcer en fait l'attractivité et puis accompagner dans le parcours du logement. Et moi, ce que je fais avec ma SEM, mais pour vous dire l'absurdité des choses, c'est que j'ai une base militaire avec les aviateurs à Villacoublay, j'ai une direction CRS. À Versailles, les militaires ne manquent pas, la police aussi. Et quand ces services ou le préfet ont besoin de loger un salarié de l'État, ils ne s'adressent pas au logement social, ils s'adressent à moi. Parce que moi, en quelques minutes, si j'ai un logement disponible, je peux. Et du coup, cette attractivité, elle est là. Et avec ce côté vertueux, c'est que j'ai un territoire où, parce que pour le logement social, il y a besoin d'investir et de payer des surcharges foncières pour le logement social de temps en temps. Moi, même pas. Le modèle, il tombe tout seul. Le développement, l'équilibre économique avec la production de logements privés finance le logement social. Donc il y a même, l'État n'a même pas, ou la collectivité n'a même pas besoin de mettre. Sauf que si on n'a pas le peuplement, on ne fait pas.
Mais c'est clair.
Parce que l'entreprise, qu'est-ce qu'elle attend? C'est de loger ses salariés à proximité, pas tous. Et quand je... Et du coup, moi, je peux reconstruire la ville sur la ville. C'est-à-dire que c'est une ville années 70, on peut déconstruire, reconstruire, sans densifier... obligatoirement, parce qu'il faut garder ce qui était dit sur Duny. Hein, moi, j'ai une ville un peu jardin et qui a été même mis à l'honneur cette année, puisqu'on est les premiers à avoir fait le Grand Chelem. On a eu concours des villes et villages fleuris la fleur d'or. On a eu le Grand Prix du paysage et on a cru les victoires du paysage.
C'est génial.
Donc sur un quartier qu'on avait refait.
C'est
mais
génial.
Parce qu'on peut construire en faisant de la qualité de vie et construire sur la ville. Mais pour ça... il faut enlever, alors vous parliez du ZAN, une ville années 70, vous imaginez les grandes galettes de parking. Donc c'est facile pour moi, le ZAN, c'est pas obligatoirement un problème, puisque la galette de parking, je peux facilement, et j'avais une dalle, là où j'ai eu tous ces prix-là, c'était une grande dalle, à Paris années 70, 20 000 m² de béton, j'ai tout fait tomber, 14 000 m² d'espace vert, pour moi, c'est pas obligatoirement un sujet, mais ça peut être un vrai sujet entre le ZAN et puis la proximité de la forêt où ben, vous construisez plus, donc la forêt avance, donc vous construisez de moins en moins. Enfin, c'est fait par des technos, quoi. Et arrêtons les normes, suivant le bon sens, parce que ce qui bloque aussi le logement, parce que le gouvernement ne s'y intéresse pas, parce que c'est pas délocalisable hein, quelque part, donc c'est pas son truc. Mais laissons le bon sens, et il y a toujours des escrocs partout. Mais autant s'attaquer aux escrocs, mais ne pas. Non, mais dans toutes les catégories, chez les élus aussi. Mais au lieu d'imposer des normes, laissons une liberté aux collectivités en contrôlant et en sanctionnant ceux qui ne vont pas dans le bon sens. Parce qu'il n'y a aucun maire qui a envie de faire une ville qui ne soit pas attractive et où ses concitoyens n'aient pas une qualité de vie.
Alors, sur ce sujet, vous avez absolument raison. Je pense que c'est un mauvais procès de parfois de dire à certains maires que justement, ils sont en... Vous savez, aujourd'hui, c'est la mode de la décroissance. Vous savez, on parle beaucoup de décroissance, et ce n'est pas le cas. Jean-Luc, vous vouliez intervenir sur...
Oui, deux remarques dans ce que vous dites, messieurs les maires. C'est à la fois intéressant, mais en même temps révélateur. C'est-à-dire que vous avez trois communes très différentes, représentées ici, avec forcément donc trois approches et trois projets de territoire différents. Ça montre que notre sujet de ce matin est pertinent, c'est-à-dire c'est les maires, les premiers, on va dire, au front sur l'aménagement et le développement du territoire et personne d'autre. Après, vous pointez chacun de votre manière la question, non pas essentielle, mais je n'ai pas de mots pour dire prioritaire, la question du foncier. C'est-à-dire que sans foncier, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, sans foncier, on ne peut pas faire grand-chose. Et aujourd'hui, le traitement du foncier est très différent. Monsieur le vice-président à Lyon, vous parliez de la surélévation, vous parlez des grandes nappes de goudron à renaturer et embellir. Alors, chez Nexity, on a un partenariat qui est unique en France avec Carrefour sur la transformation de justement ces territoires d'entrée de ville où on va ramener de la qualité des services, de la nature sur des endroits qui ne sont que des parkings la plupart du temps. Donc on voit bien que c'est des choses différentes. Je veux m'arrêter deux secondes là-dessus parce que la question du foncier, chez nous, c'est assez simple, on va dire, hélas. Il y a le prix de foncier, les coûts de travaux et le prix de sortie. C'est quand même les trois composantes qui font nos métiers, qu'on soit aménageur ou promoteur, c'est quand même autour de ça. Et on voit bien qu'aujourd'hui, monsieur le vice-président, vous en parliez, on est dans une crise très très dure sur la question de l'immobilier en France, non pas depuis ce matin, mais quand même depuis quelques années, et sur lesquelles on n'a pas beaucoup avancé dans les 3-4 dernières années. La ministre aujourd'hui du logement a réussi à obtenir un certain nombre de choses dans les discussions budgétaires. C'est très attendu par les opérateurs de l'immobilier. Je pense que c'est très attendu par les villes. Je prendrai juste l'aide aux maires bâtisseurs. On peut toujours discuter des volumes, mais je crois que c'est très important d'accompagner les maires bâtisseurs parce qu'un maire qui construit, il a des coûts supplémentaires, vous le disiez, monsieur le maire de Vélizy, parce que quand on fait 300 logements, c'est 6 classes. 6 classes, c'est, allez, je ne sais pas, 20 ASEM. Et donc tout ça, ça a un coût sur l'investissement et le fonctionnement. Donc on a besoin d'accompagner les maires parce que l'acte de construire, politiquement, je me permets de le dire, est aujourd'hui risqué. Alors encore plus à quelques mois des municipales. Peut-être c'est les trois. Peut-être c'est les trois. Mais le lapsus peut-être est révélateur.
Moi j'aime bien l'idée que tout est acte politique de ce point de vue-là.
Bien sûr. Et je crois qu'aujourd'hui, la vraie analyse dans la crise que l'on traverse depuis les 4 dernières années, c'est le rapport au temps, d'où l'intérêt d'avoir une vision d'aménagement plutôt qu'une vision, on va dire, du diffus, parce que c'est aussi une réponse au maire de projet sur plusieurs années. Et c'est la diversification du marché. Avant, il y avait du neuf. Aujourd'hui, il y a du neuf, il y a de la réhabilitation, il y a parfois de la surélévation. Bref, on a un marché de l'immobilier et un marché de la production immobilière qui a, non pas éclaté, parce que ça serait exagéré, mais malgré tout, qui s'est un peu déformé en termes de puzzle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une seule réponse. Et là, l'enjeu pour des entreprises comme Nexity, c'est d'avoir une réponse à chacun de ces sujets. L'enjeu pour les élus, c'est d'être en capacité d'avoir des partenaires, entreprises, sur le secteur de l'immobilier. Je ne dis pas promoteur, sur le secteur de l'immobilier. C'est ce qu'on essaye de raconter avec Envie de Ville. C'est-à-dire l'immobilier, c'est à la fois de la promotion, c'est à la fois de l'aménagement, c'est à la fois de la mobilité, c'est à la fois de l'énergie, c'est à la fois, bien sûr, des services autour des commerces. C'est tout ça, l'immobilier. C'est pour nous la meilleure réponse à des prescripteurs que sont les collectivités.
C'est très clair ce que vous dites, et c'est important parce que j'aime beaucoup l'idée de justement que tout est apolitique, notamment au niveau de la ville. Quand vous entendez, Quentin, vous, dans votre commune, Pascal Thévenoud, qui est désensibilisé des dotations parce qu'il a une forte attractivité commerciale et industrielle et de services également. Alors, effectivement, ça donne envie aussi, quelque part, dans une certaine mesure. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous vous posez également la question, en fait, du bien-vivre dans cet environnement économique. Et finalement, en fait, vous, vous êtes véritablement des polytechniciens au sens étymologique du mot, entre les aspects sociaux, les aspects environnementaux, les aspects techniques, juridiques, politiques. Comment vous arrivez à ajuster ces politiques quand on est en Île-de-France, avec finalement, bien évidemment, ce grand Paris qui broie absolument tout sur son passage. Je fais un peu mon journaliste, hein, je caricature, je force le trait, mais il faut que ça serve la communauté, puisque c'est vrai que vous serez à 20 minutes de la Défense. C'est juste extraordinaire. Extraordinaire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vivre à la campagne en ville, grâce à vous, maire de Luny. Je lance un appel, tous ceux qui veulent la vivre à Luny peuvent y aller. Non, mais quel est votre avis sur ces commentaires?
Je pense effectivement que tout devient de plus en plus complexe parce qu'on a aussi une tendance à rajouter des niveaux de contrôle supplémentaires à chaque fois, de plus en plus, et on doit passer des paliers qui font que, même pour nous, et moi je suis maire d'une petite ville encore, 11 000 habitants, on n'est pas avec la même quantité de services que peut avoir une ville de 40 000 ou de 50 000, et pas forcément le même accompagnement interne aussi. Et donc, c'est aussi beaucoup de temps administratif pour nous quand on souhaite porter un projet. Et tout cela qui s'accumule fait aussi que parfois, on est face à des partenaires qui nous mettent un peu la pression pour qu'on puisse avancer, mais on n'a juste pas le temps. Plus le temps électoral, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, cher Jean-Luc, puisque forcément, on regarde ce calendrier-là avec cette envie de voir des projets qui se terminent avant les échéances électorales, avoir un peu une petite pause dans cette période-là, avant de réentamer, en cas de réélection, et je nous le souhaite à tous, de relancer avec d'autres projets. Par contre, effectivement, pour répondre sur la situation de mon collègue de Vélizy, on aimerait tous être dans cette situation-là. Et en même temps, je pense que Pascal aimerait bien quand même avoir quelques dotations en plus. Hein. Ça l'aiderait au quotidien, malgré tout.
Elle est quand même subie, mais il faut toujours être optimiste. Oui. Et du coup, on fait une difficulté, une opportunité. Hein.
Bien sûr.
Mais je voulais juste réagir sur le fait des élections. Moi, j'ai souvent ce débat-là avec mon équipe à la fin de mon premier mandat et avec d'autres maires. Je pense que c'est un faux sujet et ça ne devrait pas être un sujet. Moi, j'avais une grosse rénovation urbaine qui était en cours pendant mon premier mandat, donc qui se terminait en 2020. Et j'avais un bâtiment un peu qui finissait cette rénovation urbaine et qui allait démarrer. Le chantier allait démarrer juste avant les élections. Et moi, mon équipe n'était pas obligatoirement d'accord avec moi, mais je l'ai fait. Je considère que ça ne devrait pas être un sujet. Déjà, en France, on est tout le temps en élection. Et soit le projet nous convient, on le porte et on en est fier et on le fait avant ou après.
Quitte à ce que l'autre l'accompagne.
Soit on le fait ni avant ni après. Parce que, et même l'avantage, c'est que si vous l'avez fait ou si vous l'avez démarré, c'est plus un sujet électoral. Parce qu'il peut pas être, il y a un moment, suivant l'avancement, il ne peut pas revenir en arrière. Si vous ne l'avez pas fait, ça peut devenir un sujet électoral. Et du coup, vous pouvez avoir toute la démagogie dessus. Donc je pense que là, on devrait tous réagir en se disant, élection ou pas élection, si j'y crois, je sais le vendre, ça ne devrait pas un sujet politique, et il faut le faire avant ou après tout. Mais si on peut le faire avant, il faut le faire avant.
J'adore.
Et j'arrête jamais. L'élection,
c'est du cas par cas. Je crois qu'il y a moi, je croise deux écoles dans mes
pérégrinations.
Il y a deux écoles. Il y a des maires qui disent, avant les élections, il me faut des grues. Et il y a des élus qui disent avant les élections, il ne faut plus de grues. C'est ce que vous dites, en fait. Et j'entends aussi des élus, et je respecte ça, hein, qui le sujet, l'acte de construire, l'acte d'urbaniser, l'acte de se développer, est un sujet de plus en plus sensible politiquement.
Oui, mais si on améliore le cadre de vie
ce que vous dites,
de ceux qui sont là 100%. Et de ceux qui vont arriver, il ne faut jamais négliger ceux qui sont là. C'est-à-dire qu'un projet immobilier ou autre, d'aménagement, il doit aussi renforcer la qualité de vie des gens qui sont dans le voisinage. Et si tout le monde y trouve son compte, c'est plus un sujet.
Sylvain, je voudrais juste réagir, si tu m'autorises, par rapport à ce que disait Monsieur le maire de Nuit, et ce que tu dis de Duny, pardon, et ce que tu disais sur, c'est pas tout à fait les mêmes communes, ce que tu disais sur le Grand Paris ou la société du Grand Paris et l'infrastructure de transport. C'est aussi la thématique de ce matin, c'est-à-dire qu'on voit bien que l'aménagement, la vision, la projection sur plusieurs décennies des infrastructures de transport change complètement la donne des territoires.
Bien sûr.
Et moi, m'autorise à dire, ce que je trouve bien dans l'exécutif du moment, c'est qu'on a retrouvé un ministre de l'aménagement du territoire. Ce qui est quand même quelque chose qu'on a perdu beaucoup trop longtemps. Et on sait que, nous, dans nos métiers quotidiens, mais vous, surtout les élus, d'avoir une capacité de se projeter sur un aménagement du territoire un peu défini, c'est plutôt rassurant. Et en Île-de-France...
Oui. Surtout que le ministre en question,
c'est un vrai élu local bâtisseur.
Voilà, sur la question, François, c'est quelqu'un qui est... Voilà, il a une épaisseur. Vous voulez réagir, Renaud ?
Non, quelques réactions, mais très... peut-être décousu, et je ne voudrais pas qu'elle le soit trop. Oui, bien sûr qu'on a un ministre de l'aménagement du territoire. Est-ce qu'on a un budget dédié ? Est-ce qu'on a une volonté quand même d'agir ? Moi, c'est une vraie inquiétude, parce que c'est bien un des sujets. Là, je ne le remonte pas que à la présidence d'Emmanuel Macron, mais à d'autres gouvernements avant. L'État a reculé sur l'aménagement du territoire, et c'est une vraie question. Le deuxième élément... Moi, je suis tout à fait d'accord. Alors, c'est peut-être aussi parce que je suis vice-président d'une métropole d'1,5 million, élu au suffrage universel direct, donc je n'ai pas tout à fait la même position. Mais je suis tout à fait d'accord. Moi, d'abord et avant tout, il faut aller le plus vite possible sur les projets. Enfin, il n'y a pas à se poser de questions. À partir du moment où on les a validés et on prend assez de temps les uns les autres à se dire « là-dessus, je ne suis pas d'accord » et on fait revoir la copie, une fois que c'est validé, il faut y aller. Il ne faut pas se poser quand même la question. Et puis le dernier élément, parce que là-dessus, je marquerai une petite différence. Je rappelle quand même pourquoi je suis autant attaché au logement social, que j'appelle bien logement social, même si il faut penser à tout le parcours résidentiel, et on est bien d'accord là-dessus. C'est que c'est plus de 70% de notre population qui est éligible, et donc il faut le rappeler quand même. Et puis l'autre point par rapport à ce logement social, et je regarde tous les acteurs, et notamment Nexity, il faut quand même rappeler quand même, au moment de cette crise... C'est aussi pour ça que je suis très content que Valérie Létard soit revenue en partie sur la réduction de loyer de solidarité et redonne un peu de bouffée d'air aux bailleurs sociaux. C'est que sans les bailleurs sociaux, ce serait quand même très compliqué. Ce serait très compliqué. Les promoteurs sont les premiers à nous dire « il nous manque l'investissement locatif » et ils ont bien raison. Mais il ne faut jamais oublier qu'un tiers de l'opération est bien souvent acquise par des bailleurs sociaux qui jouent toujours dans ce pays un rôle contracyclique, c'est-à-dire que les bailleurs sociaux, c'est aussi des acteurs économiques, c'est des acteurs de l'économie du logement et de l'immobilier. Et il ne faut pas l'oublier, il ne faudra pas l'oublier quand la conjoncture redeviendra...
C'est très clair, c'est très clair. Voilà, le temps nous presse, on va devoir se quitter. J'étais ravi de vous avoir, parce qu'il y a un élément important, et c'est très important, et je m'adresse à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Vous avez un rôle primordial, vous les maires de France, bien évidemment on a une affection particulière parce que vous êtes, je ne sais pas qui l'a dit, à portée de claque des administrés, mais voilà vous êtes vraiment en prise directe. Il faut, et d'ailleurs la France, depuis la constituante, s'est construite à travers les élus locaux, faut-il le rappeler. Et si on veut savoir où on va, encore faut-il savoir d'où on vient. Et je pense que c'est très important. Ce que vous avez dit, Renaud, est fondamental sur le rôle des bailleurs sociaux. On l'a vu avec les promoteurs privés. Sans les bailleurs sociaux, qui sont arrivés à la rescousse, quand même, des promoteurs privés, il n'y a pas si longtemps. Et donc le rôle qu'ils ont d'un point de vue contracyclique, il est majeur par rapport à ça. Mais je vais prendre aussi un autre exemple. C'est justement l'hétérogénéité des territoires entre votre ville, Vélizy, Duny, avec Quentin, mais tout à l'heure je recevais la première adjointe de la maire du maire de Saint-Dizier, par exemple, ou le maire de Libourne qui était là. Donc des villes très hétérogènes. On voit qu'il y a des aspérités territoriales. Et que Jean-Luc a raison quand tu dis, tu sais, quand tu parles de ton aménagement des territoires, tu dis il n'y a pas un aménagement des territoires, il y a des aménagements territoriaux. Et je pense que c'est fondamental de le dire comme ça, puisque du coup, on tient compte, et là je reprends ce que vous dites sur justement le fait que l'artère fémorale de l'agglomération, ça reste également le logement et l'emploi, parce que le rapport entre l'emploi et le logement est fondamental. Et vous l'avez rappelé aussi, Pascal Thévenot, dans ce que vous dites, et je pense qu'il y a quelque chose qui, à mon avis, est terriblement efficace, si on devait vous écouter au niveau de l'exécutif. Et effectivement, François Rebsamen, on peut dire que c'est un grand maire bâtisseur. On peut dire que c'est quelqu'un qui a su effectivement transcender certaines réalités. Là, juste, effectivement, ce qu'il faut espérer, d'ailleurs, je l'ai écrit, je peux le dire, et je vous rejoins, Renaud, c'est que, question budgétaire, la question se pose, et elle est réelle, bien évidemment. Voilà, c'était
première
vraiment...
Première économie, ça serait quand même de simplifier la construction.
Mais oui,
parce que,
mais oui.
Et ça, ça coûte rien au budget. Parce qu'il ne faut pas rêver, hein, alors, les milliards vont être des fois, enfin, tout est gratuit, mais... Si on pouvait simplifier les choses,
bien sûr,
et toutes les contraintes et les mesures contradictoires,
c'est l'objectif.
On gagnerait du temps et de l'argent.
C'est l'objectif de la simplification de la norme. Toute dernière question très rapide, réponse oui ou non, je ne pourrais pas résister. Hein. Pascal Thévenoud, 2026
Sûrement.
Merci. Quentin Gézel.
Normalement, oui.
D'accord. Renaud.
J'espère au sein d'une équipe qui a encore beaucoup de chantiers à mener.
Voilà. Ah, j'ai peut-être un scoop.
Tu me poses pas la question.
voilà, on observera avec beaucoup de vigilance et beaucoup d'attention justement ces élections qui arrivent, bien évidemment. En tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, ce que je suis très heureux de vous avoir tous les trois reçus. Je crois que c'est la première fois que je vous ai sur le plateau. Et encore une fois, je décèle en vous la passion, l'engagement. Et c'est ça qui est important parce qu'on a envie, et je vais, même si ça peut paraître un peu ringard, on a envie de vous dire qu'on a envie de vous aimer. Parce que c'est important ce que vous faites et vous le faites pour les autres. Voilà, merci vraiment à Renaud Père, vice-président de l'agglomération de Lyon, de la métropole de Lyon, en charge de l'habitat, de la politique de la ville et du logement social. S'il vous plaît, Renaud, ne changez rien. Pascal Thévenoud, maire de Villizy-Villacoublay. Alors, vous avez un sens de la plus pragmatique extraordinaire. Et je me permettrai d'ailleurs de venir vous voir à l'hôtel de ville avec caméra à l'épaule pour 24 heures dans la vie d'un maire, parce que c'est un nouveau programme qu'on va initier bientôt. Et je viendrai vous voir également, si vous permettez, Renaud, vous suivre dans vos déambulations territoriales, ainsi que bien sûr que Quentin Gézel, le maire de Dugny, une ville magnifique. Alors, j'ai envie de venir vous voir, justement. Puis en plus, je connais un bar qui n'est pas très loin de chez vous, c'est très sympathique, où on mange très bien. Voilà, donc. Vous devez m'inviter à déjeuner. Je vous taquine. En tout cas, c'est une très très jolie ville. Et merci de ce que vous faites. Et puis voilà, représentez-vous, parce que je crois que c'était votre premier mandat, me semble-t-il. Et voilà. On aime être maire.
On est passionné et on ne voit pas les journées passer.
C'est la passion. Et bien sûr. Merci à Jean-Luc Corcedo, patron de Next City Transformation des Territoires, directeur de la rédaction de Envie de Vie, notre partenaire média. On se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle table ronde. C'est toujours intéressant de croiser. Et merci, Jean-Luc, de laisser la possibilité de cette agora d'expression libre, vraiment libre, au sens républicain du terme, pour que chacun puisse s'exprimer. Voilà, il est 11h20. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre programme.
MIPIM 2025 en partenariat avec Envie de Ville by Next City sur Radio Immo.